10. De retour dans sa chambre, Luc présenta un de ses jetons devant la caméra de l'ordinateur portable. Il se sentait un peu idiot, mais un écran bleu apparut aussitôt, avec ce message. « Content de te revoir, Donna. » Luc fronça les sourcils, puis esquissa un sourire. Avant son arrivée, cet ordinateur avait manifestement appartenu à une certaine Donna. La page d'accueil n'avait pas été modifiée. Quelqu'un s'était planté. C'était une erreur infime, certes, mais une erreur pouvait en cacher d'autres. Le message s'effaça, remplacé par un banal fond d'écran, une plage déserte à l'aube. Les icônes situées en bas ressemblaient à celles de son propre ordinateur, à une différence près, flagrante, mais pas surprenante à ce stade. Il n'y avait pas de timbre poste pour symboliser la messagerie. Toutefois, il y avait deux icônes de moteur de recherche. Ça, c'était une surprise. Et une bonne. Il ouvrit Firefox et tapa AOL Login. L'écran bleu réapparut. Cette fois, un cercle rouge palpitait au milieu. Et une douce voix artificielle dit « Désolé, Dave, je ne peux pas faire ça. » Luc crut d'abord à une autre erreur, d'abord Donna et maintenant Dave, avant de reconnaître la voix de Hal 9000 dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace. Ce n'était pas une bourde, juste de l'humour de geek. Absolument pas drôle dans ce contexte. Il tapa « Herbert Ellis » sur Google et eut droit au même message de la part de Hal. Après réflexion, Luc tapa « Orpheum Theater, Minneapolis ». Non qu'il ait eu l'intention d'aller voir un spectacle, ni dans cette salle, ni ailleurs, dans un futur proche, mais pour savoir à quel type d'information il pouvait accéder. Il y en avait certainement, sinon à quoi bon lui donner une connexion? Le « Orf », comme l'appelaient ses parents, semblait faire partie des sites autorisés aux pensionnaires de l'Institut. Il apprit ainsi que le spectacle Hamilton allait reprendre, à la demande générale, et que Patton Oswalt se produirait le mois prochain dans cette salle. Préparez-vous à mourir de rire. Il essaya alors de se connecter sur le site de la Broderick School. Aucun problème. Mais quand il voulut joindre M. Greer, le conseiller d'orientation, il retomba sur Hal. Il commençait à comprendre la frustration éprouvée par David Bowman dans le film de Kubrick. Alors qu'il s'apprêtait à quitter Google, une idée lui vint. Il tapa « Police d'État du Maine ». Son index hésita au-dessus de la touche Enter. Sans doute allait-il avoir droit aux excuses hypocrites de Hal une fois encore, mais il devinait que ça ne s'arrêterait pas là. Une alarme allait probablement se déclencher aux niveaux inférieurs. Il pouvait oublier de changer le nom d'un utilisateur, mais pas d'installer un programme d'alerte si un des jeunes pensionnaires de l'Institut essayait de contacter les autorités. Un châtiment s'ensuivrait, plus sérieux qu'une gifle. Bref, cet ordinateur, autrefois utilisé par une certaine Donna, ne servait à rien. Luc se renversa contre le dossier de sa chaise et croisa les bras sur son torse étroit. Il pensa à Maureen, à la façon amicale dont elle lui avait ébouriffé les cheveux. Un simple geste, distrait, mais, avec les jetons, il avait permis d'atténuer la brûlure de la gifle assénée par Tony. Kalisha lui avait-elle dit que cette femme avait 40 000 $ de dette? Non, plutôt le double. Motivé par la démonstration de tendresse de Maureen, mais aussi pour tuer le temps, il tapa sur Google « Je croule sous les dettes, aidez-moi, SVP ». L'ordinateur lui donna accès immédiatement à toutes sortes d'informations sur le sujet, dont les noms de plusieurs sociétés qui promettaient de vous débarrasser de ces foutues factures sans aucun problème. Un coup de téléphone suffisait. Luc était sceptique, mais il devinait que certaines personnes y croyaient. C'était d'ailleurs comme ça qu'elle s'était retrouvée dans cette situation. Maureen Halvorson ne faisait pas partie de ces personnes, d'après Kalisha. Cette dernière affirmait que le mari de Maureen avait accumulé des dettes avant de ficher le camp. C'était peut-être vrai, peut-être pas. Mais il y avait forcément des solutions à ce problème. Il y avait toujours des solutions. L'éducation servait à les trouver. Cet ordinateur n'était peut-être pas si inutile que ça, finalement. Luc consulta les sources qui lui paraissaient le plus fiables, et très vite il s'immergea dans l'univers des dettes et des remboursements. Il sentait renaître sa vieille faim de savoir, son envie d'apprendre des choses nouvelles, d'isoler et de comprendre les problèmes fondamentaux. Chaque information conduisait à 3 autres, ou 6, ou 12. Et finalement, un tableau cohérent commença à apparaître. Une sorte de carte topographique. Le concept le plus intéressant, la cheville ouvrière à laquelle tous les autres étaient reliés, était simple, mais sidérant, pour Luc du moins. Les dettes étaient une marchandise qui s'achetait, se vendait et était devenue à un moment donné le pivot de l'économie américaine, mais également de l'économie mondiale. Pourtant, cette marchandise n'existait pas réellement. Ce n'était pas une chose concrète, du gaz, de l'or ou des diamants. Ce n'était qu'une idée. Quand l'ordinateur tinta pour annoncer un message, Luc secoua la tête comme s'il émergeait d'un rêve captivant. D'après l'horloge du Mac, il était presque 17 heures. Il cliqua sur l'icône représentant un ballon en bas de l'écran et lut « Madame Sixby ».« Bonjour, Luc. Je suis la directrice de cet établissement. J'aimerais te voir. » Il réfléchit, puis tapa « Luc, ai-je le choix ?» La réponse fut immédiate. « Madame Sixby ?»« Non. » On frappa à la porte. Il alla ouvrir, s'attendant à voir Gladys, mais il se retrouva face à Haddad, un des deux types croisés dans l'ascenseur. « T'as envie d'aller faire un tour, mon grand ?» Luc soupira. « Accordez-moi une minute. Faut que j'enfile mes baskets. »« No problemo. » Haddad le conduisit au-delà de l'ascenseur, jusqu'à une porte qu'il ouvrit à l'aide d'une carte magnétique. Ils parcoururent la courte distance qui les séparait du bâtiment administratif en chassant les insectes.